Bonjour Barbara Pompili.
Bonjour.
Vous êtes ministre de la Transition écologique depuis juillet 2020 avec Alexandra Ben Said. Nous attendons vos questions au 01 45 24 7000. Elles sont déjà très nombreuses d'ailleurs, ou via les réseaux sociaux et l'appli France Inter. Il y a donc un chemin, il y en a même 6 pour atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone en France. C'est-à-dire émettre autant de gaz à effet de serre qu'il est possible d'en stocker. C'est l'enseignement principal d'une vaste étude publiée hier après 2 ans de travail par RTE, le gestionnaire public du réseau électrique français. Tout cela pour contenir le réchauffement climatique. Je vais vous demander dans une minute, Barbara Pompili, de nous expliquer comment on concilie le nucléaire et le renouvelable, puisque ce sont quand même 5 chemins sur 6 qui nous sont indiqués par cette étude. D'abord, il faut s'arrêter sur ce que va impliquer cette neutralité carbone dans 29 ans. Plus de pétrole, plus de gaz, plus de charbon.
Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de se passer de ce pétrole, de ce gaz, de ce charbon qui émettent des gaz à effet de serre. Moi, je rappelle que mon travail en tant que ministre de l'énergie, c'est 2 choses, et c'est ce à quoi répondent les scénarios de RTE. 2 choses, c'est d'abord baisser nos émissions de gaz à effet de serre pour respecter nos engagements de l'accord de Paris. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que nous ayons une sécurité d'approvisionnement en électricité, en énergie, pour satisfaire les besoins de nos concitoyens. Et grâce à RTE, moi je me réjouis qu'on ait ce rapport, parce qu'on a en fait une forme de GPS, on a des chemins pour y arriver, des chemins qui sont économiquement soutenables et qu'on va pouvoir suivre, choisir l'un ou l'autre, mais qui sont là renseignés d'un point de vue économique et simplement sur leur faisabilité.
L'étude dit aussi, et ça a été moins souligné, qu'il va falloir consommer beaucoup moins d'énergie d'ici 2050, passer de 1600 TWh aujourd'hui à 930 dans 30 ans, c'est quasiment divisé par 2. Concrètement, qu'est-ce que ça implique ?
Mais ça veut dire que on doit diminuer notre consommation d'énergie qui aujourd'hui, je le rappelle, est aux 2/3 basée sur les fossiles. 2/3 de notre consommation, c'est du pétrole et du gaz essentiellement. Et donc, il faut qu'on baisse cette consommation de 40% en 2050. Et donc, ce sont des scénarios qui sont déjà très ambitieux. Pour baisser cette consommation, on a 2 voies. La première, c'est les économies d'énergie. Donc, tout le travail qu'on fait sur, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments pour qu'ils consomment moins, l'efficacité énergétique des frigos qui consomment moins, mais aussi ce qu'on appelle la sobriété, c'est-à-dire changer de modèle, prendre plus le vélo pour aller au travail, par exemple, manger plus végétarien. Ça fait partie de tout ce qui va devoir être fait pour atteindre ces objectifs. Donc ce n'est pas rien, effectivement, mais on va pouvoir le faire grâce aux scénarios qui sont proposés.
Alors Barbara Pompili, enseignement majeur, il y en a au moins 2 hein, dans ce rapport, au moins. Le premier, quand même, c'est la place du nucléaire dans les scénarios proposés par RTE. Et sur 6 options, on a 5 qui proposent un mix entre nucléaire et énergie, parce que vous l'avez dit, il va falloir produire cette électricité, comment on fait ? Le nucléaire, est-ce que la conclusion c'est qu'on ne pourra pas s'en passer ?
Oui, alors, juste pour revenir sur ce que vous avez dit, il faut qu'on baisse notre consommation d'énergie. Mmh. En revanche, pour baisser cette consommation de pétrole, 1, on fait des économies d'énergie, mais 2, il va falloir qu'on fasse passer un certain type d'utilisation d'énergie du pétrole à l'électrique. Par exemple, les voitures électriques. On va passer des voitures qui consomment du carburant fossile aux voitures électriques. Et donc, ces 2 choses conjonctures qui se réunissent font que nous allons devoir augmenter notre production d'électricité.
On va consommer moins, mais on va devoir produire beaucoup plus d'électricité.
Voilà.
Ce qui est une nouveauté totale par rapport à 2017.
Totalement. RTE a fait évoluer sa vision des choses. On va devoir augmenter entre 15 et 20% rien que d'ici 2035. et après, ça peut monter jusqu'à 40-50%
en 2050. Comment est-ce qu'on produit cette électricité ? Est-ce que le nucléaire est incontournable ?
Alors, d'abord, comme vous le voyez, il y a plusieurs manières de faire. Et c'est ça qui est intéressant dans le rapport de RTE. On a 6 scénarios qui vont du 100% renouvelable. C'est un scénario c'est un scénario qui est prévu par RTE. Et on peut aller jusqu'à beaucoup de nucléaire, sachant que RTE se fonde sur la moitié de nucléaire au maximum, parce qu'ils ont entendu la filière qui dit que, en gros, ils ne sont pas en capacité de faire plus d'ici 2050. Donc ça, déjà, c'est intéressant parce que c'est un enseignement, excessivement important. Et j'ai entendu Dominique ce matin, il avait raison. L'enseignement important, c'est que de toute façon, quoi qu'il advienne en 2050, il y aura au moins la moitié de notre électricité qui sera faite de renouvelables. Et donc, la première urgence que souligne RTE, c'est de fabriquer des renouvelables, et beaucoup de renouvelables, parce que d'ici 2035, d'ici 2035, on n'a pas le temps de construire des centrales nucléaires. Et d'ici 2035, même d'ici 2030, on doit baisser beaucoup nos émissions
de gaz
à effet de
serre. On va y venir aux renouvelables, mais quand même, Barbara Pompili, si vous entendez ce matin et vous regardez les unes de la presse, c'est le rapport qui relance le nucléaire. Vous êtes d'accord ou pas d'accord?
Non, c'est le rapport qui met enfin les choses sur la table et qui permet de sortir des dogmes d'un côté comme de l'autre. Là, nous avons un rapport qui a été fait, ils ont mis 2 ans à le faire, il y a eu 4000 contributions, il y a eu un énorme travail qui a été fait d'experts, de contre-expertise, de projection, qui permet enfin de sortir de ceux qui disent que le nucléaire est la solution à tout, on voit bien que ce n'est pas le cas, et de ceux qui disent que les renouvelables vont tout régler sans aucun problème. On voit que ce n'est pas le cas, on voit que c'est un peu plus compliqué que ça. Et je suis très heureuse que les experts aient pu parler. Et puis ensuite, bien sûr, viendra le temps de la décision politique. Elle viendra après. Là, le rapport a été déposé hier. Donc moi, ce que je regarderai en tant que ministre de l'Énergie, c'est quel est le scénario qui est le plus efficace pour répondre à mes deux objectifs qui sont la baisse des gaz à effet de serre et la sécurité d'approvisionnement des Français.
Mais a priori, tous ces scénarios, puisqu'ils sont tous proposés, répondent à cela. Donc c'est ce qui est le plus efficace, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui est le plus acceptable, ça va être quoi les critères?
Ce qu'on va regarder, c'est évidemment l'aspect économique, puisqu'il faut aussi faire attention à ce que ça va coûter, mais aussi regarder la capacité des filières, par exemple, à pouvoir suivre le chemin qui est proposé par RTE, que ce soit les filières des renouvelables, les filières du nucléaire. Est-ce qu'ils sont capables de monter en puissance à la vitesse qui est prévue par RTE? Tout ça, ce sont des projections qui ont fait l'objet de discussions. L'acceptabilité, la question des réseaux, comment on peut aller vite pour faire en sorte que les réseaux évoluent, puisque les réseaux avec beaucoup de renouvelables ne sont pas les mêmes que des réseaux comme aujourd'hui avec un réseau très centralisé sur les centrales nucléaires. Donc c'est tout ça qu'on va regarder.
Et ça, c'est un débat pour la présidentielle ou c'est une question que vous allez regarder et sur laquelle on dit qu'Emmanuel Macron veut lancer 6 nouveaux EPR d'ici quelques semaines, qu'il pourrait faire cette annonce? Est-ce que ça peut être fait avant la fin du quinquennat ou est-ce que ce sont des questions pour le prochain quinquennat et le prochain président de la République?
Bon, d'abord, il faut laisser un peu le temps du débat. Moi, je crois que ce rapport, il est d'ailleurs, il fait beaucoup parler, et tant mieux. Il secoue un petit peu le cocotier sur les certitudes des uns et des autres. Donc, il faut laisser un peu le débat se faire. Nous, on va prendre le temps de regarder ces scénarios, d'étudier donc les différentes possibilités et qu'est-ce qui est le plus efficace. Et évidemment, la décision va se prendre assez vite, parce que RTE dit aussi qu'on ne peut plus attendre, qu'il faut lancer très vite les chantiers. Alors, sachant qu'il y a 2 chantiers qui, de toute façon, quel que soit le scénario, doivent être lancés, c'est la baisse des consommations, donc avec tous les moyens possibles pour baisser les consommations, et le développement des renouvelables. Ces 2 chantiers-là peuvent être lancés sans attendre. Pour le reste, la décision doit être prise assez vite, mais le débat continuera, vous savez, puisque quoi qu'il advienne, il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui va se décider donc sur un chemin en 2023. Il y aura une loi à l'Assemblée nationale. Il va y avoir une campagne présidentielle aussi qui va permettre aussi de discuter de tout cela. Je pense que c'est une bonne manière de faire progresser la démocratie.
Est-ce que vous vous opposeriez en tant que ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, à l'annonce de la construction de nouveaux EPR, de nouveaux réacteurs? Ici même, il y a un peu plus d'un an sur France Inter, vous qualifiez le projet EPR de Flamanville de gabegie.
Ah ben, le projet d'EPR de Flamanville coûte très cher. On approche les 20 milliards. Il a énormément de retard et nous avons dû en subir les conséquences d'ailleurs, puisque quand on a fermé Fessenheim, il fallait que l'EPR soit lancé, ce qui n'a pas été le cas, ce qui pose des problèmes à toute la filière. Donc oui, l'EPR de Flamanville ne nous a pas aidés, ça c'est clair.
Ça veut dire il ne faut pas en faire d'autres?
Ensuite, moi je ne peux pas demander à tous ceux qui étaient dans les croyances sur un certain nombre de sujets de revoir un petit peu leurs convictions et de regarder le rapport des experts et ne pas moi-même regarder le rapport des experts.
Ah, c'est-à-dire que vous revoyez vos croyances personnelles quand vous faites référence à
votre mais je crois qu'il faut qu'on soit
réflexion.
Tous humbles face à un travail qui a duré 2 ans, face à un travail qui a été très long, qui est un travail d'une entité d'experts indépendant et qui nous dit des choses. Donc moi, je vais aussi regarder ce qu'ils nous disent et en tirer les conséquences. C'est la moindre des choses, ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle.
Alors, l'autre enseignement majeur, on a parlé du nucléaire, c'est le recours massif aux renouvelables, hein, vous l'avez dit, il va falloir de toute façon, dans tous les scénarios, installer beaucoup de panneaux solaires et beaucoup d'éoliennes. On connaît les oppositions, alors juste pour donner une idée, aujourd'hui on a environ 8000 éoliennes. Combien de plus d'ici 2050 ?
Pour ce qui sur les éoliennes sur Terre,
sur hein, Terre.
On ne parle pas des éoliennes
de celles qui
en
existent
mer.
Déjà et qui oui et...
ouais il faudrait multiplier au minimum par 2,5 le nombre d'éoliennes minimum entre 2,5 et 4
ça fait combien 4 000, 35 000
oui ce qui veut dire qu'on arriverait à peu près au niveau des éoliennes qui sont installées en Allemagne hein. Donc on monte pas tant que ça, le nombre d'éoliennes à terre. Parce qu'on tient aussi compte, justement, et ça a été pris en compte par RTE, des problématiques qui sont soulevées de place sur le territoire, d'acceptabilité. Donc, on va en mettre un peu plus parce qu'il en faut plus, mais toujours avec la méthode que j'ai mise en place il y a quelques semaines, de meilleure concertation avec une cartographie qui sera faite sur les territoires pour savoir où on peut en faire, où on peut pas en faire, avec une diminution des nuisances, que ce soit la lumière, enfin le balisage sur les éoliennes, l'effet guirlande de Noël, on dit souvent, ou le fait de ne plus retirer les socles, de ne plus laisser les socles en béton dans la terre. Bref, on travaille sur l'acceptabilité, sur une meilleure concertation, sur des projets citoyens aussi qui permettent aux citoyens de pouvoir financer leurs propres éoliennes. Voilà ce qu'on essaye de faire parce qu'on en a besoin, mais on ne peut plus faire les erreurs qu'on a faites par le passé.
De manière générale, on parle des éoliennes, on peut parler de nouvelles centrales, de panneaux solaires, de pylônes, de lignes à haute tension. Le réseau électrique français va se voir davantage. Il va falloir s'y faire.
Oui, je crois qu'on s'est trop habitué à croire que la lumière, l'électricité arrivait par magie dans nos maisons ou dans nos téléphones portables parce que on avait des centrales qui étaient fermées, enfin qu'on ne voit pas les centrales nucléaires. Et on a peut-être oublié ce que c'était que les mines de charbon à l'époque. Moi, j'ai pas oublié parce que je sais d'où je viens. Mais voilà, oui, pour produire de l'énergie, il va falloir maintenant beaucoup de renouvelables. On ne peut pas faire autrement.
On renonce à nos paysages ?
On ne peut pas faire autrement. Et je ne crois pas du tout qu'on va renoncer à nos paysages. Mmh. Pas du tout. Parce que on peut le faire de manière harmonieuse. Parce que oui, ça va se voir. Mais on peut bien le faire. Et moi, je rappelle que toutes les révolutions industrielles dans le monde se sont vues dans les paysages. Je rappelle que le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais où j'ai grandi est maintenant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut faire des bassins miniers partout, je rassure tout le monde. Mais on verra des éoliennes, mais on fera en sorte qu'elles soient implantées là où on peut le faire et on peut le faire correctement.
Il y a beaucoup de propositions, évidemment, dans ce début de campagne sur les éoliennes. Il y a ceux qui veulent les démonter, Marine Le Pen. Il y a ceux qui veulent un moratoire, Xavier Bertrand. Il y a ceux qui veulent sortir du nucléaire, plus ou moins vite, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot. Ce rapport, il apporte une réponse à ces propositions. Il les met en face d'un miroir. Comment ?
Oui, ce rapport va permettre de sortir des yaka-faucons et va sortir de ces propositions qui sont écrites sur un coin de table, fondées sur je ne sais quoi, et qui partent surtout sur des dogmes en fait.
Lesquels ? Qui ?
Mais, par exemple, enfin, effectivement, quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut arrêter la moitié des réacteurs nucléaires français dans les 5 ans, qui m'explique ? Comment il va faire quand Yannick Jadot dit il faut sortir du nucléaire très vite, d'accord, mais là RTE nous montre quelles sont les contraintes pour ça, qu'ils nous disent comment il va faire notamment, parce que ça c'est un point important, on nous dit sur le scénario de sobriété n'est pas vraiment regardé.
C'est un mot fort, Yannick Jadot dans un tweet hier, il parle de manipulation du gouvernement avec ce rapport.
Oui, alors moi je trouve ça honteux. Je trouve ça complètement honteux qu'il parle de manipulation. On est à la limite du complotisme. Je trouve que quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle ne devrait pas réagir comme ça. On a un rapport qui a été fait par une entité indépendante pendant 2 ans. Ce qu'il est en train de faire, c'est simplement parce que ce rapport remet en cause ses convictions, eh bien c'est de dénoncer le messager plutôt que de regarder le message. C'est très grave qu'il débatte du fond du rapport. Il y a des questions dont on peut débattre, notamment sur la sobriété, mais qu'il ne verse pas dans quelque chose que je trouve pas au niveau d'un candidat à la présidentielle. Et enfin, pour aller sur le fond, sur la question de la sobriété, parce qu'on dit que les scénarios de sobriété sont assez vite écartés. D'abord, non, puisque je rappelle que tous les scénarios de RTE nécessitent de baisser de 40% notre consommation d'énergie, donc c'est quand même beaucoup.
C'est un peu renvoyé à 2022, hein, la sobriété, il y a un second opus.
C'est encore beaucoup, mais surtout, ça veut dire quoi? Là, les scénarios, ils sont basés sur le fait qu'on garde un taux d'industrialisation à peu près à 10%. Si on a gardé ce scénario, c'est parce que on veut qu'il y ait une partie de l'industrie qui revienne en France, relocaliser notre industrie. Ça va nous demander de l'électricité. Relocaliser notre industrie, ça veut dire réduire notre empreinte. Parce que ça veut dire qu'on importera moins de productions qui viennent de Chine ou de pays qui sont plus consommateurs d'énergie. Et donc, oui, ça veut dire qu'on va avoir un besoin de maintenir notre production industrielle et donc d'augmenter notre électricité. Et c'est un choix qui est fait. Là, il faut demander à Yannick Jadot comment il fait pour réduire notre empreinte.
On a beaucoup de questions pour vous, Barbara Pompili, ce matin sur France Inter. Je voudrais qu'on accueille Benjamin qui nous appelle de l'Ardèche. Bonjour Benjamin.
Oui, bonjour à tous. Madame Pompili, si on pouvait mettre de côté les questions de sécurité, en quoi l'énergie nucléaire, vous pouvez dire qu'elle était décarbonée si on la prend dans sa globalité, c'est-à-dire extraction minière de l'uranium, je rappelle qu'il en faut 8000 tonnes, si je ne me trompe pas, par an en France, démantèlement éventuel, construction de centrales, transport des déchets. Je vois pas le décarboné dans tout ça. Voilà.
Merci Benjamin.
Oui, vous avez raison. Il n'y a aucune manière de produire de l'électricité qui est totalement décarbonée. Vous avez parfaitement raison. Le nucléaire fait partie de ceux qui sont le moins carbonés, mais pose aussi d'autres problèmes, notamment la question des déchets, qui eux sont des déchets dont on a toujours des problèmes à assurer la gestion. On a des déchets qui peuvent, pour certains, durer des milliers d'années et qu'on doit léguer en héritage aux générations futures. Donc, le nucléaire est loin d'être parfait. Simplement, il a d'autres qualités qui fait qu'il est moins décarboné, c'est l'énergie la moins décarbonée, qu'elle est pilotable. Voilà les avantages du nucléaire, mais qui a aussi des inconvénients. Mais les autres énergies, les renouvelables, ont aussi des inconvénients, notamment la nécessité de la flexibilité qui oblige à revoir les réseaux et qui oblige à avoir des systèmes pilotables pour compenser une forme d'intermittence. Donc vous voyez, ce n'est pas si simple et c'est en ça que le rapport de RTE est important, parce que justement il met tout ça à plat et il apporte des solutions en fonction de l'utilisation des différents types d'énergie.
Question donc sur le nucléaire, question aussi sur le renouvelable. Alain nous appelle de Saint-Pierre-d'Oléron. Bonjour Alain.
Oui, bonjour. Bonjour France Inter et bonjour Madame Pompili.
Bonjour.
Ma question est la suivante. Comment peut-on envisager de construire un parc éolien marin à partir de 10 à 12 km des côtes de l'île d'Oléron, défigurant ainsi des paysages d'un département touristique, d'autant que la zone choisie se situe dans un parc naturel marin et une zone Natura 2000. Et pour terminer, que dire de l'interdiction de la pratique de la pêche dans cette zone, pratique de la pêche professionnelle au port de la Cotinière? Merci de votre réponse.
Barbara Pompili.
Oui. Il faut bien comprendre que si on veut tenir nos objectifs, il faut qu'on développe toutes les énergies renouvelables. Sur l'éolien en mer, on est très en retard, puisque je rappelle qu'on a zéro éolienne en mer, à part une éolienne flottante, mais on a zéro éolienne en mer, alors que on a un potentiel de développement qui est énorme. Sur l'éolien en mer, il faudrait qu'on passe à 1,5 à 2 gigawatts par an, c'est-à-dire 2000 à 4000 éoliennes offshore. Vous voyez qu'on en est très loin aujourd'hui, très très loin, et que on doit maintenant s'y mettre. Sur la question du rapport à la biodiversité, c'est un sujet, et on a d'ailleurs lancé des études. Le Premier ministre a annoncé 50 millions d'euros pour lancer des études pour non seulement avoir les retours d'expérience des autres parcs éoliens offshore qui existent ailleurs dans le monde, parce qu'on est très en retard par rapport à nos voisins européens, mais aussi sur les contextes spécifiques des territoires, sur les côtes atlantiques, sur les côtes méditerranéennes, sur les côtes de la Manche. Sur les zones Natura 2000, moi ce que je regarde, c'est l'impact réel. C'est pas parce qu'on est sur telle ou telle zone qu'il faut ne pas mettre d'éoliennes, c'est parce qu'il y a un problème spécifique avec l'avifaune notamment, qu'on pourrait ne pas mettre d'éoliennes. Sur le projet dont vous parlez, c'est un projet qu'on regarde de près pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème sur l'avifaune et qu'on puisse le mettre en œuvre de la manière la plus sûre possible. Moi, j'ai été secrétaire d'État à la biodiversité. Je peux vous dire que c'est pas toujours facile d'arbitrer entre la lutte contre le changement climatique et la lutte pour la préservation de la biodiversité, mais on peut y arriver. Et je rappelle que une des premières causes de perte de biodiversité, c'est le changement climatique.
Barbara Pompili, tant qu'on est sur les impacts, vous connaissez en ce moment la sensibilité des Français sur leur facture, qu'ils voient exploser. Cette transition, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin où elle nous mène ? C'est-à-dire en 2050, les Français, est-ce qu'en passant au tout électrique, ils vont juste voir leur facture exploser ?
Alors, c'est une bonne nouvelle qui est apportée par le rapport RTE, puisqu'ils font des projections, justement, sur les coûts de production de l'électricité. Et ils disent, et ça, j'insiste, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est que, c'est des projections, il faut être prudent, mais a priori, les scénarios permettraient d'avoir une petite augmentation des coûts de production d'électricité qui serait de l'ordre de 15%. Donc c'est une petite augmentation, mais à mettre en face du fait qu'il n'y aurait plus de dépenses autres. Il n'y aurait plus de dépenses pour le carburant, pour le fuel, pour le chauffage, etc.
Donc vous êtes en train de nous dire que c'est finalement, ça sera peut-être une bonne affaire ?
Dans les scénarios de RTE, on nous dit, mais encore une fois avec précaution, que cette petite hausse serait compensée par le fait que il n'y aurait plus de dépenses pour les énergies fossiles. Et donc, on resterait à peu près sur la même facture énergétique pour les Français. Et oui, je crois que c'est une excellente nouvelle, parce qu'on aurait très bien pu avoir dans les scénarios un constat qu'on ne pourrait pas le faire à moins d'un coût très important pour nos concitoyens. Eh bien, ce ne sera pas le cas.
Les investissements,
et ça, c'est la bonne nouvelle du jour.
Alors, les investissements, quand même.
Oui, tout à fait, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, les investissements seront du même ordre, que ce soit pour plus de nucléaire ou pour plus de renouvelables. On est à peu près sur les mêmes niveaux d'investissement qui seront importants, mais c'est normal, on a un parc à renouveler.
Avant de retourner au standard, je voudrais vous transmettre la question de Claude, qui est une interpellation sur la sobriété. Quelles mesures allez-vous prendre dès demain pour que cette sobriété s'applique aussi aux entreprises et pas seulement aux citoyens qui ont l'impression d'être les seuls, je cite, à qui on demande des efforts ?
Non, on demande des efforts à tout le monde et tout le monde doit s'y mettre. Et on a mis beaucoup d'argent dans le plan France Relance, mais aussi dans le plan France 2030 pour préparer nos entreprises et pour préparer notre société à faire face aux enjeux du changement climatique. Et donc on investit, que ce soit dans l'efficacité énergétique pour les entreprises, dans la reconversion de leurs process, justement pour qu'ils passent à l'électricité et qu'ils sortent des process utilisant les fossiles, mais aussi sur la relocalisation des industries. C'est aussi une forme de sobriété, puisque on économise les transports et on économise aussi toute l'énergie carbonée qui est utilisé dans des pays qui sont moins regardants que les nôtres. Donc c'est meilleur pour l'environnement. Et puis, on travaille aussi sur les métaux rares, sur tout ce qui fait que nous sommes dépendants vis-à-vis de l'étranger. Ça fait partie des investissements qui sont prévus dans le plan France 2030. Donc le fait d'être plus souverain va nous permettre aussi d'être plus économes.
Question de Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour Madame Pompili, bonjour France Inter. Vous parliez, Madame Pompili, de sobriété. Je prends mon cas, mais qui, je pense, peut se répéter sur l'ensemble du territoire. J'ai mon entreprise installée depuis 9 ans dans une zone d'activité qui s'est pleinement développée. À l'initial, il y a 9 ans, nous étions 2 bâtiments. Aujourd'hui, il y a une trentaine de bâtiments. Aucun bâtiment n'a de panneaux solaires, n'a de récupérateur d'eau, n'a d'éclairage à LED, n'a de végétalisation, etc. etc. Mmh. Je pense qu'on peut le transposer également sur le parc résidentiel privé, personnel. Quelle est la cohérence par rapport à la sobriété que vous évoquez et qui est recherchée ? 9 ans et aucun bâtiment qui n'a des principes écologiques ou vertueux.
Merci Nicolas, je vais vous demander une réponse rapide, Barbara Pompili.
Tout simplement, dans la loi climat résilience qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous avons mis en place des obligations, notamment de verdissement des toits et de panneaux solaires sur les toits pour les entreprises et pour les les bâtiments industriels. Et de la même manière, on va aussi aider nos agriculteurs à pouvoir mettre des panneaux sur le toit de leur grange. Donc la réglementation a évolué cette année pour faciliter ce que vous demandez, monsieur.
Dernière question de Tristan de Grenoble. Bonjour Tristan.
Bonjour, madame Pompili.
Alors pas sur le sujet RTE, sur le sujet de la chasse.
Oui, et sur la biodiversité, puisque les chasses traditionnelles ont été à nouveau interdites par le juge des référés du Conseil d'État hier. C'est la deuxième fois en quelques mois. N'y a-t-il pas un amateurisme au gouvernement sur le sujet, ou est-ce que ce sont les lobbies qui finalement font ce genre de décision?
Oui, vous savez, sur la question de la chasse, moi, ma boussole, c'est la préservation de la biodiversité. Donc quand on a des espèces qui sont directement menacées par un type de chasse, comme ça a été le cas par exemple pour la chasse à la glu, qui n'était pas sélective, moi, je m'en occupe et donc je les arrête. De la même manière, quand on a des espèces qui sont vulnérables, comme c'est le cas en ce moment pour le grand tétras, pour la tourterelle des bois, pour la barge à queue noire, pour le courlis cendré, je mets un quota zéro, c'est-à-dire que j'empêche la chasse. Il y a un débat sur la question des chasses traditionnelles, sur est-ce qu'elles sont vraiment dangereuses ou pas pour la biodiversité. Là, je parle de filets qu'on met dans les champs.
Le Conseil d'État avait tranché, le Conseil d'État avait dit non, se basant sur la réglementation européenne.
Le Conseil d'État avait tranché sur la forme, mais pas sur le fond. Donc le fait qu'on ait pu déposer les arrêtés à nouveau va permettre justement au Conseil d'État de définir une bonne fois pour toutes, clairement, si telle ou telle chasse est mauvaise ou pas pour la biodiversité.
Vous allez redéposer enfin, des arrêtés pour autoriser à nouveau ces chasses d'oiseaux traditionnels.
Ils ont été déposés parce que nous savions qu'ils allaient de toute façon être attaqués, qu'ils allaient permettre enfin au Conseil d'État de ne plus juste s'exprimer sur la forme, mais de s'exprimer sur le fond, pour que cette bagarre, entre guillemets, s'arrête, qu'on ait une bonne fois pour toutes le Conseil d'État qui dise telle chasse oui, telle chasse non. Et ça, ça va être le cas, puisqu'il a suspendu, donc là, on ne peut plus chasser ces espèces pour l'instant, en attendant que le Conseil d'État décide sur le fond. Et comme ça, nous aurons enfin réglé cette question.
Merci Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, invitée ce matin du grand entretien.
France Inter.